destination Auvergne-Rhône-Alpes. Voyageons chez nous. Partons à la découverte de l'insolite en Auvergne-Rhône-Alpes. Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM.
Radio Ondaine dans le sud de la Loire vous invite aujourd'hui à découvrir la nature et les hommes de notre territoire. La nature et les 4000 hectares des gorges de la Loire marquant la frontière entre les monts du Velay et la plaine du Forêt. Les hommes dans l'industrie et l'innovation forte de Saint-Étienne. Les hommes du fond mis en avant avec le musée de la mine et le textile, les armes et les cycles exposés au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, présenté par Marie-Caroline Janan, directrice de ces deux lieux.
Oui, bonjour. Le musée d'art et d'industrie et le musée de la mine font partie donc de la ville de Saint-Étienne. Ce sont des musées municipaux qui se complètent l'un l'autre pour bien comprendre l'histoire de la ville. Le musée de la mine, aussi appelé Couriot, est donc le site qui était exploité jusqu'en 1973, un site qui est classé monument historique et dans lequel le visiteur appréhende par l'espace sa perception du travail minier. Il est au pied des crassiers de la ville de Saint-Étienne qui marque le paysage, donc il est extrêmement connu des Stéphanois et puis beaucoup de gens qui viennent aussi de la région. Le musée d'art et d'industrie est un musée plus de collection autour de trois industries phares de la ville de Saint-Étienne que sont le cycle, les armes et les rubans.
Période un peu compliquée en ce moment, on a improvisé, entre guillemets, des visites pour cet été. En quoi cela va consister ?
Alors oui, nous avons été obligés de modifier complètement notre dispositif habituel de proposition pour le public. Il n'était plus question de faire des visites guidées et notamment au musée de la mine, nous avons une problématique avec la galerie. Donc la galerie est fermée en tout cas pour l'instant, pour l'été, au public. Mais néanmoins, les équipes ont énormément travaillé sur des formes un peu libres d'une dizaine de minutes qu'on appelle les impromptus. Ils se déploient dans les deux sites, les médiateurs, matérialisant au sol l'emplacement dans lequel chacun doit se mettre. Et ils délivrent un court temps, 10 minutes, sur un sujet qui peut être l'histoire d'un objet, qui peut être l'histoire du site. Voilà, à chaque fois c'est réinterprété de manière différente. Et puis il y a des actions spécifiques avec la même configuration pour les familles.
Alors, exposer, mettre en valeur, mettre en avant l'industrie et le passé industriel d'une ville, en quoi ça consiste ?
Alors, ça consiste déjà en conserver, puisque le musée a deux obligations, la conservation et puis la valorisation d'un site ou d'objet. Dans un premier temps, ça consiste à travailler autour des objets, à les mettre en valeur dans les expositions temporaires et puis à les mettre à disposition du public. Nous sommes un service public, donc notre rôle est vraiment de faire accéder cette culture de l'industrie, qui est très forte et qui est encore très, très ancrée sur le territoire, au public. Oui, on expose les objets du passé, mais aussi du présent. Ça, j'insiste parce que c'est très important de comprendre les filiations de savoir-faire entre aujourd'hui et hier. Comment on expose ? Alors déjà, pour le textile, par exemple, pour les rubans, on a des contraintes spécifiques et très fortes sur la lumière. On ne peut pas exposer toutes les pièces, donc on a des rotations. Donc les collègues chargés d'exploiter les collections et de les gérer vont faire des rotations dans les robes haute couture. C'est-à-dire que à peu près tous les 3 mois, les robes haute couture fabriquées avec des rubans sont changées. Et en vitrine, les rubans sont aussi entièrement changés. C'est protéger ces objets, veiller à ce que l'éclairage ne soit pas trop important pour tous les objets, quels qu'ils soient. Et au-delà, veiller à leur bonne conservation et à leur présentation aussi qu'on voudrait dynamique.
Lorsqu'on parle de la mine, comment on renouvelle ? Est-ce que l'on apporte de nouveaux objets ? Est-ce qu'on va récupérer aussi des objets qui appartiennent pourquoi pas à des particuliers et qui les mettent à disposition ?
Oui, alors c'est souvent à l'occasion des expositions temporaires. On va monter une exposition temporaire. L'année dernière, nous avions l'exposition série et l'École des mines nous avait prêté des fossiles. Eh bien, nous avons eu plusieurs dons de fossiles à la suite de cette exposition de personnes dont le père, le grand-père était mineur et qui avaient trouvé ces fossiles au fond en creusant, en exerçant leur métier de mineur de fond et qui nous les ont apportés spontanément en dons. Donc on a énormément de dons. On achète bien sûr, mais on a aussi beaucoup de dons.
Alors cet été, programme spécial, on l'a nommé les impromptus. Pour les visiteurs, est-ce que l'on vient de cette manière-là, de façon impromptue, ou est-ce qu'il va falloir quand même prévoir des choses ?
Alors, il faut faire attention, nous avons légèrement modifié nos horaires, c'est-à-dire que d'habitude, les musées sont ouverts non-stop sur la période de midi. Là, nous avons une heure de fermeture pour permettre la bonne désinfection avant d'entamer la deuxième partie de la journée, donc de 12h30 à 13h30. On n'a pas de système de réservation. Les sites sont vastes, les deux musées sont vastes, donc les flux sont bien gérés. Non, il faut faire attention à avoir son masque, parce que oui, là, le masque est obligatoire.
Alors, pour le visiteur, qu'est-ce que vous conseillez quelqu'un qui habiterait, je ne sais pas, à Grenoble, qui entend cette émission de radio, qui souhaite venir découvrir ce passé stéphanois ? On va rappeler que géographiquement, les deux musées ne sont pas si éloignés que ça, on peut le faire à pied. Comment on visite finalement ces deux lieux ?
Ils sont complémentaires l'un l'autre. J'ai envie de dire, si vous arrivez de l'extérieur, le plus simple presque, c'est d'aller au musée de la mine à Courriau. Et puis ensuite, de venir au musée d'art et d'industrie. Dans les deux cas, les parkings sont assez faciles. La complémentarité se situe dans le fait qu'on va toujours parler de la même chose, de l'histoire d'un territoire, de l'histoire du travail des hommes sur ce territoire, de savoir-faire aussi. Donc, les deux musées peuvent s'entendre ensemble.
Alors, les deux musées peuvent s'entendre ensemble. Il y a aussi d'autres lieux qui rappellent un passé et puis un présent sur Saint-Étienne, la cité du design. Un peu plus loin, on a le musée d'art moderne. La complémentarité de ces lieux-là, quelle est-elle ?
Alors, en fait, le musée d'art et d'industrie, c'est un musée aux racines du design, c'est-à-dire que c'est le musée historique de la ville de Saint-Étienne dans lequel le visiteur va retrouver des objets qui sont en lien avec le dessin, hein, qui va donner le mot design, et ce qu'on appellerait maintenant l'ergonomie. C'est comment adapter, par exemple, une arme à une ergonomie et à un dessin, une esthétique. Donc, nous, au musée d'art et d'industrie, présentons de très nombreux objets, des bicyclettes aussi, des rubans qui sont dans cette perspective-là. Comment comprendre le design que le visiteur peut retrouver par la suite sur une version plus contemporaine à la cité.
Alors, si l'on parle maintenant de la rentrée, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce que les choses déjà imaginées, planifiées, le sont-elles toujours ? Et puis, qu'est-ce qui va se passer à partir du mois de septembre ?
À partir du mois de septembre, nous ouvrons une nouvelle exposition au musée d'art et d'industrie, donc sur l'armurerie à Saint-Étienne. L'exposition Cata, catastrophe minière, est maintenue tout l'été pour les visiteurs qui n'auraient pas pu la voir sur le printemps et fermera ses portes par contre fin août. Et puis nous reprenons notre programmation de spectacles, de cinéma en plein air qui n'a pas pu avoir cet été. Nous allons la Nuit des musées, bien entendu, qui va commencer, et les Journées européennes du patrimoine, puisque la Nuit des musées a été déplacée sur l'automne. Donc toute la programmation va reprendre réellement en septembre.
Seulement à quelques kilomètres du centre urbain de Saint-Étienne se situent les Gorges de la Loire, entre Saint-Paul en Cornillon et Saint-Just-en-Rambert. Réserve naturelle, site classé au titre de la loi Paysage et Natura 2000, les Gorges de la Loire invitent dans un environnement privilégié à des activités pédestres et nautiques entre villages typiques, châteaux et églises. Nelly Felter fait partie du SMAGL, le syndicat mixte d'aménagement des Gorges de la Loire, chargé de la valorisation de ce territoire et surtout de sa préservation.
Alors, la préservation, en fait, c'est le fait de pouvoir maintenir en l'état tous les milieux naturels et les espèces bien particulières que l'on retrouve sur ce milieu. Donc, les Gorges de la Loire, en l'occurrence, sont caractérisées par une grande diversité de milieux naturels, puisqu'on retrouve, par exemple, des zones rocheuses bien escarpées, des milieux forestiers, des zones agricoles. Et donc, tout cela fait qu'on retrouve de très nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Donc on travaille à maintenir tout cela en bon état de conservation.
Les Gorges de la Loire, qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette zone géographique ?
Alors, les Gorges de la Loire, donc, ce sont les sept communes qui se retrouvent donc, autour du fleuve Loire. Au nord, donc, autour du barrage de Grandjean. Donc, on va retrouver la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. En rive droite, Saint-Étienne avec le quartier de Saint-Victor-sur-Loire, Unieu un peu plus au sud et la commune de Saint-Paul-en-Cornillon. Et en rive gauche, donc à partir du pont du Pertuisé, on va retrouver Saint-Maurice-en-Gourgois, Saloire et la commune de Chambles.
Le côté remarquable de ces Gorges de la Loire, quel est-il ? Ses particularités au niveau de ce qu'on peut observer et de ce qu'on peut découvrir lorsqu'on chemine autour de ces Gorges de la Loire ?
Alors, les Gorges de la Loire, c'est un patrimoine naturel, c'est aussi un patrimoine paysager et un patrimoine bâti. Donc, lorsque vous vous baladez sur les Gorges de la Loire, vous pouvez notamment observer divers châteaux sur les plateaux. Je pense par exemple au château des Salois, qui est visible sur les nombreux points de vue des Gorges de la Loire. C'est aussi un patrimoine paysager. Je pense notamment au plateau de la Danse qui est très caractéristique puisqu'on observe très bien les méandres de la Loire, les milieux forestiers qui l'entourent.
Comment découvre-t-on les Gorges de la Loire ? Y a-t-il un point de départ, un point d'arrivée ? Comment chemine-t-on autour de ce fleuve et de ces sept communes-là que vous avez précitées ?
Alors sur les Gorges de la Loire, on va retrouver plus de 200 km de sentiers qui peuvent se pratiquer en VTT, à pied. On ne va pas retrouver un seul point de départ des sentiers. Vous en retrouverez un peu de partout sur chaque commune et vous retrouverez notamment des panneaux d'information sur chaque commune. Vous avez également à disposition un topo guide des Gorges de la Loire qui vous permet de retrouver l'ensemble de ces sentiers et donc qui peuvent varier selon les niveaux de difficulté, le relief, etc.
Alors la patte de l'homme, quelle est-elle ? Est-ce que l'on essaie de sauvegarder un milieu naturel entre guillemets sauvage ? En quoi vous œuvrez sur ces sentiers-là, dans ces paysages et dans ces rives ?
Alors, il faut savoir que les Gorges de la Loire, anciennement, c'était caractérisé par une forte activité agricole. Donc, sur les Gorges de la Loire, il faut imaginer que plus de 70% des milieux étaient ouverts, donc sur lesquels on pratiquait une agriculture extensive, du pâturage, de la fauche. Cette activité a été peu à peu un peu abandonnée sur ces milieux difficiles d'accès. Donc, aujourd'hui, on a des milieux qui sont plutôt forestiers et on retrouve de manière éparse quelques milieux agricoles qui en intérêt tout particulier au niveau écologique. On retrouve des espèces qui ne se développent que dans ces milieux-là. Donc c'est pourquoi on œuvre à maintenir cet équilibre, maintenir ces milieux qu'on appelle ouverts, en travaillant notamment avec les agriculteurs pour maintenir ces milieux, voire réouvrir certains milieux qui ont été abandonnés. Vous avez de nombreuses balades. Vous en retrouverez notamment au départ de Saint-Victor-sur-Loire à Condamine. Vous avez notamment deux sentiers d'interprétation qui se retrouvent dans la réserve naturelle des Gorges de la Loire. Une au départ du Pertuisé à Unieu, qui vous propose une boucle de 5,5 km et donc qui vous permet de découvrir un peu les richesses de la faune, de la flore, les activités, donc qui se parcourt sur environ 2 heures. Et à Saint-Victor-sur-Loire, une balade donc de 5 km que vous pouvez également parcourir sur environ 1h30. Vous aurez de très beaux points de vue sur l'ensemble des Gorges de la Loire. Vous découvrirez les différents milieux naturels, les landes, les prairies et les milieux forestiers.
Pour un retour en ville, secteur nord de Saint-Étienne, découvrez la cité du design ou le musée d'art moderne et contemporain. Et au milieu, en prenant le tram, arrêtez-vous au stade Geoffroy Guichard et son musée des Verts.
C'était Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM, Fédération des radios associatives non commerciales Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez toutes les productions de cet été sur le site aurafm.org.